Nous poursuivons notre lecture, donc au verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Au premier chapitre de cette épître, donc en 1 Jean 1, versets 5 à 7, Jean a développé l'idée que Dieu est lumière, afin de démontrer que quiconque marche dans les ténèbres ne peut avoir aucune communion avec lui, ce qui renvoie également au dialogue de Jésus avec Nicodème dans l'Évangile selon Jean chapitre 3. Jean proclame maintenant que Dieu est amour pour démontrer que celui qui n'aime pas de façon, je dirais, parfaite ou en tout cas accomplie, achevée, n'a pas connu Dieu et n'est pas né de lui parce qu'il ne lui ressemble pas. De la sorte, cette parole qui respire tout ce qui est le plus profond et le plus tendre dans l'amour divin est en même temps d'entre les plus sévères du Nouveau Testament, finalement. La suite. Donc, et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alors Jésus, le Fils unique de Dieu, fut sur la croix victime expiatoire, en ce sens qu'il a porté nos péchés pour permettre notre réconciliation avec Dieu. On parle ainsi de rédemption, de propitiation, autant de termes théologiques qui signifient que parce que Jésus a porté nos péchés à la croix, quiconque se repent de ses péchés, croit en Dieu par Jésus et s'engage à sa suite, n'a plus à porter lui-même le poids de son péché et est assuré du pardon de Dieu. Si aimer, c'est se donner, Dieu a aimé donc de cette manière quand il nous a donné cet autre lui-même, son Fils unique. Par ce don, son amour a été manifesté. Et pour connaître parfaitement, il ne suffit pas de considérer, donc pour connaître parfaitement Dieu et le Christ, il ne suffit pas de considérer simplement l'apparition historique du Fils, savoir et croire que Jésus est venu et qu'il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, qu'il s'est inscrit dans le fil de notre histoire, mais il faut que l'Esprit le glorifie selon ce que nous lisons, enfin notamment en Jean 16, 14 et Galates 1, 16, là il y a des passages intéressants à lire. Et à remettre dans leur contexte aussi en lisant les paragraphes qui vont bien. Donc il faut que Dieu, que l'Esprit glorifie Jésus en nous. Dieu veut que nous ayons la vie abondante, la vie éternelle, et pour cela il nous envoie son Fils qui est la résurrection et la vie. Alors ce bon berger dont qu'il veut que nous ayons la vie abondante, et qui donne sa vie pour ses brebis, bien il en est question en Jean 10, chapitre 10 et 11, versets 10 et 11 notamment, et Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie » en Jean 11, 25. Ce n'est pas nous qui avons fait le premier pas, c'est Dieu qui nous a aimés avant que nous l'aimions, et le péché fait de l'être humain un être opposé à la nature de Dieu, à la nature du Dieu lumière, je dirais. Et de sorte que non seulement l'amour de Dieu est tout à fait gratuit, immérité, pour nous rendre capables de le comprendre et d'y répondre, il a fallu le profond mystère de l'expiation, nouvelle et insondable manifestation de l'amour de Dieu. Qui ne comprend pas l'expiation, ne comprend pas l'amour de Dieu, n'a rien compris au christianisme. Et il est d'ailleurs étonnant que des doctrines littéralement inconverties, pour le coup, négatrices de la croix, et en tout cas négatrices de l'expiation en tant que telle, donc tout à fait révélateur et douloureux de constater qu'elles font florès actuellement. J'insiste, ce ne sont pas les doctrines chrétiennes. Pas de christianisme sans la croix. Et là, le but de la croix, c'est effectivement que Jésus, sur la croix, a expié nos péchés à notre place. Bien-aimés, disons-nous par la suite, bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Alors, il y a un rapport de cause à effet ici. L'amour des enfants de Dieu les uns pour les autres doit être de même nature que l'amour de Dieu envers eux. Il est produit par la connaissance de cet amour. Nous savons que Dieu nous aime et alors nous aimons. Donc, comme je disais, il y a un rapport de cause à effet, un rapport cause-conséquence. Dieu nous aime et nous avons été mis au bénéfice de l'amour de Dieu en accédant à la foi en Jésus-Christ et par la même au salut. Et la conséquence de notre salut, la conséquence de notre, du fait que nous avons été régénérés par le Saint-Esprit, eh bien, c'est l'amour que justement le Saint-Esprit produit en nous. Dans le passage de l'Évangile dont il était question un petit peu plus tôt, enfin dans l'épisode de l'Évangile où Jésus répond à la question de savoir quel est le plus grand commandement, eh bien Jésus associe l'amour de Dieu à l'amour du prochain. En Matthieu 22, 37 et 39, c'est le passage que nous allons lire, enfin il y a aussi les passages équivalents en Marc et Luc, et là Jésus cite l'Ancien Testament, donc Deutéronome 6, 5 et Lévitique 19, 18. Donc je lis ce passage. Un docteur de la loi posa cette question. Ah, pardon, je reprends. Un docteur de la loi lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le grand commandement de la loi? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, Jésus associe clairement l'amour du prochain à l'amour que nous avons pour Dieu, alors que ici, donc en 1 Jean 4, Jean associe l'amour du prochain à l'amour que Dieu a pour nous. Donc de l'amour, on peut conclure de ces passages, que de l'amour que Dieu, que de l'amour de Dieu pour nous découle notre amour pour Dieu, et de l'amour père-enfant qui nous lie à Dieu découle notre amour pour nos frères et sœurs, en esprit et en humanité. Donc non seulement pour les frères et sœurs dans l'Église et partageant nos convictions, mais pour nos semblables, de façon beaucoup plus générale. On note dans l'Ancien Testament que le mot utilisé pour dire que Dieu nous aime n'est pas le mot, le verbe, que celui qui est utilisé pour dire que nous devons l'aimer. Quand Dieu nous dit « aime », ce n'est pas le même verbe que quand il est dit qu'il nous aime. De la même manière, dans le dialogue dans le Nouveau Testament entre Jésus et Pierre, en Jean 21, versets 14 à 17, lorsque Jésus demande par trois fois à l'apôtre « M'aimes-tu ?», Pierre lui répond à chaque fois « Je t'aime », mais dans le grec, ce n'est pas le même verbe. Pour ceux qui entendent le grec, Jésus utilise le verbe « agapeo » et Pierre répond par le verbe philéo, donc un verbe au sens beaucoup moins fort. On connaît la différence, souvent dans le milieu chrétien, on a appris cette différence entre l'agapé et la philia, deux formes d'amour, l'une étant supérieure à l'autre. Donc finalement, Jésus semble satisfait d'ailleurs par la réponse de Pierre, et il poursuit le dialogue, mais il insiste quand même, il pose la question trois fois. Donc ce n'est quand même pas tout à fait vrai, là, ce que je disais plus haut, à savoir que Dieu demande la réciprocité dans son amour, c'est une chose qui méritait d'être creusée, mais ce n'est pas tout à fait vrai finalement, ce n'est pas tout à fait la réciprocité que Dieu nous demande. Personne n'a jamais vu Dieu, lisons-nous au verset 12, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous, parfait dans le sens d'abouti. Le Dieu invisible, inaccessible, s'est manifesté à nous par son Fils unique et il se manifeste en nous par l'amour de communion fraternelle qui est une preuve sensible de sa présence, de sa communion intime avec nous. Son amour est alors effectivement abouti en nous. Voilà effectivement ce que nous devons retenir de tout ça, c'est qu'il y a vraiment, je dirais, une synergie entre l'amour de Dieu pour nous, notre amour pour Dieu et ensuite l'amour pour l'Église et l'amour pour nos semblables. Prions. Père, merci pour ton amour, auquel tu as mis le comble en nous donnant ton Fils. Merci parce que c'est sans y mettre de conditions que tu appelles chacun à la réconciliation et à la vie éternelle. Merci pour la vie abondante à la suite du bon berger. Merci pour ton esprit consolateur. Merci pour ton règne qui vient. Donne-nous de t'aimer vraiment et qu'à ta suite, nous sachions aimer nos frères et sœurs dans une parfaite communion, nos semblables dans une parfaite compassion. Amen.